Bonjour. Nous reprenons la série sur le sermon sur la montagne qui a été commencée il y a quelque temps avec Charlie et Laetitia. Et aujourd'hui, nous allons finir la section sur le commentaire par Jésus de la loi de Moïse. Donc c'est dans la continuité de ce que nous a dit Gilles. Cette section que nous allons terminer, elle était composée de parties qui commencent toujours par la phrase « Vous avez entendu qu'il a été dit » où Jésus cite certaines dispositions de la loi de Moïse et il fait tout de suite suivre vous avez entendu qu'il a été dit par « Moi, je vous dis ». Dans cette section, Jésus rejette une compréhension légaliste de la loi, c'est-à-dire la casuistique. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire casuistique, mais ça veut dire une étude de cas qui fait demander qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Est-ce que dans tel cas, j'obéis à la loi ou j'obéis pas à la loi? Et en gros, on se prend un petit peu la tête pour savoir dans quel cas il faut faire ou pas faire les choses. Et les questions qu'on a posées à Jésus, ou en tout cas les questions auxquelles a répondu Jésus, c'est « Qui est mon prochain ? Dans quel cas puis-je divorcer ? Quel est le serment qui m'engage ?» Et à chaque fois, Jésus a souligné que c'est l'exigence de l'amour du prochain qui constitue l'esprit de la loi de Moïse, le cœur de la loi de Moïse. Cette exigence de la loi de Moïse refuse de traiter son prochain d'imbécile, de regarder une femme à la manière d'une chose à posséder, ou de tromper autrui avec des faux serments. C'est le résumé de ce qui s'est passé avant. Hein. Et la partie d'aujourd'hui pose la question qui est affichée. Que faire face à l'adversité ? Quel caractère doit avoir un chrétien face à l'adversité ? Doit-il être comme sur la gauche, une carpette, un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, ou un peu plus bas, un masochiste qui aime porter des éléphants, qui aime avoir mal, qu'on peut fouetter et il aime ça? Un lâche. Est-ce que le chrétien, c'est ça? Ou bien, sur la droite, au contraire, à une sorte de conquérant bodybuildé, quelqu'un qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds grâce à son revolver? À quoi ressemble un chrétien face à l'adversité? Le passage d'aujourd'hui mérite une attention toute particulière, car on peut aisément le comprendre de travers. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 38. C'est bien sûr Jésus qui parle. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs de taxes de taxes, eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les non-juifs, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jusqu'ici, notre lecture de l'Écriture. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons te remercier d'avoir inspiré tant de personnes pour écrire ce que ton esprit leur commandait d'écrire. Merci Seigneur pour ce témoignage de Matthieu. Merci pour ce sermon sur la montagne de ton fils Jésus. Nous voulons te prier pour que tu nous aides à le méditer, à le comprendre et à le mettre en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas en rester indemnes, même si parfois ça fait un petit peu mal. Mais Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues de nous transformer par ta parole. Alors fais-le, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Ce passage est en deux parties. Deux parties qui commencent par « Vous avez entendu qu'il a été dit ». Première partie, « Vous avez entendu qu'il a été dit », le verset 38 à 42. La loi du talion contre la non-résistance aux méchants. La loi du talion, vous connaissez, œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi limitative. C'était une loi qui était destinée à ne pas se venger au-delà de ce qui était raisonnable. Ça voulait dire, si quelqu'un te crève un œil, tu as le droit d'aller lui crever son œil. Mais tu n'as pas le droit de le tuer, lui, toute sa famille, tous ses animaux, tout ça, de brûler toute sa ferme. C'est un petit peu trop excessif. Donc la loi du talion était là pour maintenir une certaine justice, une justice au niveau de la peine. Si quelqu'un te fait une chose, fais-lui la chose équivalente. C'est quelque chose qu'on retrouve dans notre justice à nous, hein, voilà, où finalement il y a des peines qui équivalent à la faute, au crime. Et donc, la loi du talion est dans la loi de Moïse. Jésus plaide pour plus de vengeance du tout. Alors que la loi du talion était déjà limitative par rapport à une vengeance excessive, Jésus, lui, vient en disant « Moi, je vous dis de pardonner, de ne pas vous venger. » Quelque chose d'un peu choquant pour son auditoire, et sûrement pour nous. Ça implique le pardon, ça implique de la grâce. Bien sûr, il n'est pas question d'encourager l'injustice des autres par l'inaction ou le silence. Cela signifie qu'il ne faut pas chercher soi-même à ce que justice soit faite. Voilà un peu l'esprit de cette partie. Et Jésus décline ce principe avec quatre cas pratiques qui permettent de préciser l'esprit de cette loi. Premier cas pratique, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Quelque chose aussi de très choquant hein, pour son auditoire. Il faut peut-être expliquer hein, ce qui est dit. Jésus ne parle pas de quelqu'un qui veut casser la figure à quelqu'un d'autre. Il parle surtout d'une gifle qui est destinée à humilier. Peut-être aussi à un peu faire mal, mais surtout à humilier, à être humilié en public par quelqu'un qui vous gifle. Comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça ? Jésus dit à ses disciples, il faut aussi tendre l'autre joue, c'est-à-dire accepter activement de voir leur honneur bafoué. Quelque chose de très douloureux, de voir son honneur bafoué en public par quelqu'un qui est un ennemi. Quelque chose de bizarre. Deuxième cas pratique, si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, c'est-à-dire le vêtement intérieur, laisse lui aussi ton vêtement, le vêtement extérieur qui est plus cher que le vêtement intérieur. Vous voyez ? On ne sait pas si ce cas, c'est avant ou après le procès, s'il faut donner le vêtement avant même qu'il y ait le procès ou après le procès. Mais en tout cas, on sait qu'il ne s'agit pas de donner sa maison, sa femme, ses animaux ou toute sa récolte. C'est quelque chose qui est proportionné aussi. Hein, c'est donner quelque chose qui a de la valeur, mais qui n'a pas non plus une valeur excessive. Le but, Jésus n'encourage pas ses disciples à tout donner à quelqu'un qui veut faire un procès. Si quelqu'un te réquisitionne, dans le troisième cas pratique, dans certaines Bibles, si quelqu'un te force à faire un kilomètre ou un mille, fais-en deux avec lui, il est plus précis de dire si quelqu'un te réquisitionne, parce qu'il y a de fortes chances pour que Jésus décrive l'ancien système de corvée. C'est-à-dire que vous étiez en Judée au 1er siècle, vous étiez en train de travailler dans votre champ, et d'un seul coup vous avez un soldat romain qui passe, ou un officier romain qui passe et qui vous dit « Toi, tu vas prendre mon pactage pendant un kilomètre. » Et vous étiez obligé d'accepter. C'est ce qui se faisait, c'est le système médiéval, en France aussi. Hein. Si le seigneur ou si quelqu'un de haut placé forçait quelqu'un de normal, même de libre, à faire quelque chose, il était obligé de le faire. Ça faisait partie des corvées. C'était humiliant, c'était un peu un travail d'esclave, mais on était obligé de le faire. Donc le premier kilomètre, ça c'est normal. Par contre, Jésus incite ses disciples à donner un kilomètre de bonus, à porter le fardeau pendant un kilomètre de plus. C'est-à-dire aller plus loin que l'obligation. C'est-à-dire avoir un comportement qui pose forcément question à celui qui nous force de le faire. Mais aussi, on peut dire que porter un deuxième kilomètre, ça évite à quelqu'un d'autre de le porter. Parce que bien sûr, on peut imaginer que la personne qui force à porter un fardeau pendant un kilomètre, il va forcer une deuxième personne à le porter pendant le deuxième kilomètre, après une troisième personne à le porter pendant un troisième kilomètre. Donc en porter deux kilomètres, c'est libérer quelqu'un d'un fardeau pendant un kilomètre. Quatrième cas, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. C'est le cas du mendiant ou de l'emprunteur. À l'époque, c'était pas forcément des mendiants professionnels, hein, des gens qui ne font vraiment strictement jamais rien et qui sont toujours à faire la manche. Ça peut être ça aussi parce que les handicapés, genre les aveugles, les estropiés, étaient obligés de mendier. C'était leur seule source de subsistance. Mais là, la plupart du temps, les mendiants étaient des personnes qui, pendant un petit laps de temps, n'avaient pas de travail, donc étaient obligés de mendier, et puis après, ils retrouvaient du travail. Là, Jésus parle de la générosité, sans droit de regard. Donne à celui qui veut t'emprunter. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Et peut-être que dans ce contexte, donne à celui qui veut t'emprunter, et en plus qui n'est pas aimable. Quelqu'un que tu n'aimes pas particulièrement, quelqu'un qui t'est plutôt hostile, donne-lui les choses. Voilà les quatre cas. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que veut dire Jésus ? Pourquoi est-ce que Jésus demande tout cela ? Alors déjà, il faut clarifier une chose. Jésus ne veut pas dire que la police, l'armée, les tribunaux ne servent à rien. Il ne dit pas que les faibles doivent se soumettre aux forts. Jésus n'encourage pas l'injustice, l'anarchie. Cela cadrerait très très mal avec son statut divin. Il a le mal en horreur, Jésus. Alors il ne peut pas encourager ses disciples à être les complices de ce mal par leur passivité. Donc c'est pas ça le but de Jésus. Alors, quel est le but de Jésus ? En fait, l'enseignement de Jésus n'est pas un projet de société. C'est la manière, il décrit la manière dont ses disciples doivent se comporter avec leur entourage, avec leur famille, avec leurs voisins, avec ce qu'ils connaissent dans leur village. C'est un comportement individuel qui est visé par Jésus. Et l'état d'esprit de Jésus peut se résumer avec deux versets de l'Ancien Testament. Un verset du psaume 37, « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal. » Et proverbe 24-29, « Ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité, je rendrai à cet homme selon ce qu'il m'a fait. » Ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité. En d'autres termes, Jésus encourage ses disciples à ne pas être aussi stupides, aussi méchants, aussi sadiques que leurs ennemis. Au contraire, il faut prendre le mal à contre-pied. Prendre le mal à contre-pied. Et c'est justement ce thème du mal qui est à prendre à contre-pied qui est développé dans la seconde partie de notre passage. Le deuxième, vous avez entendu qu'il a été dit, c'est l'amour conditionnel contre l'amour inconditionnel. Les versets 43 à 48. Et donc, la première partie, c'est aimer vos ennemis. Quelque chose qui est bien aussi choquant que de tendre l'autre joue quand on vous gifle la première. La haine de l'ennemi ne figure pas dans la loi. Jésus dit à ses disciples, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Là, Jésus ne cite pas la loi. C'est une interprétation de la loi qui était faite par les pharisiens. Parce que dans la loi, il est dit, dans le Lévitique 19, tu ne haïras pas ton frère, c'est-à-dire ton compatriote juif, hein, pas ton frère de sang, mais ton frère de peuple. Même s'il s'est comporté en ennemi, tu ne haïras pas ton frère. Voilà ce qui est dit dans la loi. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la fameuse phrase de Lévitique 19 qui est reprise par Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cette parole, les pharisiens ont déduit que s'il ne fallait pas haïr son frère et aimer son prochain comme soi-même, eh bien, on avait le droit d'haïr ceux qui n'étaient pas nos frères. Ceux qui ne sont pas nos prochains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Donc, les juifs sont les seules personnes qui pouvaient être aimées d'après les pharisiens. On pouvait haïr tous les autres. Mais Jésus balaie cet enseignement pour commander la décision d'aimer ses ennemis. C'est bien sûr un commandement contre nature. C'est pour cela qu'il y ajoute la prière. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. La prière, c'est quelque chose qui nous engage devant Dieu. C'est une demande que Dieu, de manière surnaturelle, nous aide à aimer nos ennemis. Et Jésus accompagne ce commandement d'aimer ses ennemis par une déclaration de filiation. Si vous aimez vos ennemis, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que fait le Père qui est dans les cieux? Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, indistinctement, ses ennemis et ses amis. Tel Père, tel Fils. Si vous êtes les fils de votre Père, vous faites comme lui. Pourquoi ne pas faire de distinction entre ses amis et ses ennemis? Parce que Dieu ne la fait pas. Voilà, c'est la seule raison que Jésus donne pour qu'on lui obéisse. Mais il accompagne cela d'une troisième chose. Quelle récompense pourriez-vous mériter si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Là, Jésus lance un défi à ses disciples, celui d'être différent du commun des mortels. Le péché incite à détester ses ennemis? Eh bien, il faut contrer le péché, faire le contraire de ce que le péché nous pousse à faire, c'est-à-dire les aimer. Dur, très très dur. On peut très bien imaginer les réactions de la foule, la réaction des disciples quand ils écoutent Jésus du haut de sa montagne. Et Jésus conclut, « Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alors, peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais nul n'est parfait, c'est pas possible, la perfection n'est pas de ce monde, la Bible le dit, nous sommes pécheurs, c'est pas possible d'être parfait. » Et vous avez raison. Mais dans le Nouveau Testament, la perfection, c'est pas le fait d'être arrivé. C'est pas quelque chose de statique, la perfection. C'est plutôt un processus évolutif vers la maturité. Dont la mesure de ce processus évolutif est la ressemblance à Jésus. Cette maturité, cette perfection est caractérisée par une communion de plus en plus grande avec celui qui est parfait. Une capacité à mieux discerner sa volonté et, bien sûr, la réaliser, lui obéir, par un amour réel, par la joie et la paix. Être comme Dieu est. Voilà le programme, la feuille de route des chrétiens. Voilà ce qu'a voulu dire Jésus. Et peut-être qu'il faut en dire plus sur l'enseignement ou les enseignements principaux de ce passage. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment à retirer? Pourquoi est-ce que Jésus a vraiment voulu dire ça, finalement? La première chose, et c'est ce qu'on ressent quand il nous dit qu'il faut tendre l'autre joue, qu'il faut aimer ses ennemis, la grâce, le pardon, c'est injuste. La justice consiste à rétribuer quelqu'un à la mesure de sa faute. Ne pas rétribuer quelqu'un à la mesure de sa faute, c'est injuste. La grâce est une injustice. Mais nous, nous empressons d'ajouter, tant mieux que la grâce soit injuste, parce que nous en sommes bénéficiaires. N'oublions pas que celui qui prononce ces paroles, Jésus, c'est celui qui va faire grâce. C'est celui qui va mourir sur la croix, qui va pardonner à ceux qui le persécutent, qui va être crucifié par les siens, par ses propres frères, qui va passer sa vie à faire le bien et qui va être récompensé par la croix. Et au moment de mourir, au moment où normalement il devrait maudire ceux qui le mettent là, qui l'ont trahi, il dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus peut dire ces paroles. Jésus peut nous demander d'aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous persécutent parce qu'il l'a fait. Et parce que maintenant, grâce à son esprit, nous pouvons faire pareil que lui. Nous pouvons bénéficier d'une aide surnaturelle pour le faire. Nous pouvons être injustes, mais injustes dans le bon sens. Injustes pour le bien, pas pour le mal. Injuste pour l'amour, pas pour la haine. En rapport avec la perfection, il nous faut parler d'un état adulte. Les enfants se chamaillent souvent. Les enfants ne veulent rien passer. Les enfants veulent avoir ce que l'autre veut. Les enfants rendent l'appareil à celui qui a fait quelque chose. Et normalement, quand on grandit, on nous apprend à être patient, à être intelligent. On fait appel à notre cerveau. Sois un peu intelligent. Et c'est pas grave si tu lui prêtes. C'est pas grave s'il te fait ça. C'est pas grave. Ne t'énerve pas. Ça ne te sert à rien. Dans notre vie avec Dieu, c'est un peu pareil. Dieu nous dit, d'accord, t'es énervé, telle personne t'a vraiment fait du mal, telle personne mérite vraiment de subir ton courroux. Mais si tu me connais, si tu sais ce que j'ai fait pour toi, et si tu me fais confiance surtout, pardonne-lui, sois adulte, ne réagis pas selon tes tendances primitives, comme l'homme de Cro-Magnon que tu es un peu encore. Le troisième enseignement est le principal finalement. Et c'est la condition pour obéir à Jésus. C'est être moins centré sur soi et être plus centré sur Dieu et sur son prochain. Parce que ce passage peut être accompagné d'un autre passage qui dit à peu près la même chose mais qui explique un peu plus. Un passage de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas de mal. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû, mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Ce passage de Paul, qui cite un psaume, on peut vraiment à peu près être sûr que Paul connaissait le serment sur la montagne et ce qu'avait dit Jésus dans ce chapitre 5. Il nous donne quelques précisions. C'est que tendre la joue, aimer son ennemi, c'est faire confiance à Dieu. Quand il cite ce psaume, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû, Paul explicite que aimer ses ennemis, c'est faire confiance à Dieu. C'est aimer son ennemi tout en se disant « Dieu me fera justice, mais moi je ne me ferai pas justice ». C'est une question de foi finalement. C'est une question de foi. Si vous pensez qu'il y a un Dieu dans le ciel qui vous aime, un Dieu qui va juger les vivants et les morts, ça va vous calmer dans votre envie de justice, dans votre courroux. Parce que c'est à lui de faire le boulot, c'est pas à vous. Mais il y a un deuxième effet qui fait qu'on peut être aussi plus centré sur son prochain. C'est ce que dit Paul. Si tu lui donnes à manger, si tu donnes à boire à ton ennemi, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, mettre des charbons ardents sur sa tête? C'est pas lui faire du mal, parce que sinon Paul se contredit lui-même. Ça veut surtout dire ça le pousse à la repentance. Ça le pousse, cet ennemi, à se dire mais pourquoi, alors que je le persécute, pourquoi est-ce qu'il me fait du bien? Il va y avoir une sorte de tiraillement, ça va le choquer en lui-même, il va se poser des questions, et ça va le pousser à avoir honte, ça va le pousser à réfléchir, et peut-être à se repentir. Pardonner à ses ennemis, tendre l'autre joue, c'est un acte d'évangélisation. Petite citation d'Henri IV. On ne cite pas assez Henri IV. Le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi, c'est de s'en faire un ami. Ça tombe sous le sens. Mais le fait d'aimer ses ennemis, le fait de leur faire prendre conscience de leurs péchés, et peut-être le fait qu'ils se convertissent, ça peut-être en faire des frères. Encore plus que des amis, des frères. Ce serait pas mal quand même. Alors, j'ai trois applications très pratiques, en plus des enseignements qui étaient déjà un petit peu des applications. La première application, c'est qu'il faut que nous en finissions avec les mauvais sentiments. Il faut que nous en finissions avec les revendications perpétuelles. C'est pas juste, machin et machin, ils m'ont fait ça, c'est pas juste. Il faut absolument que j'ai ça et j'ai ça, sinon c'est pas juste. Nous sommes souvent comme cela. Nous sommes souvent des caliméros, ou plutôt des calimiris. Nous souffrons aussi beaucoup de ressentiment, de haine, peut-être parfois, envers certaines personnes qui nous ont fait du mal et à qui nous n'avons pas pardonné. Peut-être que nous nous méfions des autres. Peut-être que nous avons l'impression que les autres sont très souvent des ennemis. Peut-être que nous avons une certaine violence intérieure qui nous bouffe. Les psychologues nous disent que c'est très mauvais pour la santé. Très très mauvais pour la santé. Et Jésus nous dit ça aussi. C'est très mauvais pour votre santé spirituelle, en plus de la santé physique. Il y a une tension intérieure qui est invivable quand nous nourrissons des sentiments aussi négatifs. Surtout pour nous qui savons qu'une véritable paix intérieure est possible. Jésus nous promet cette paix intérieure. Les apôtres nous promettent cette paix intérieure. La paix intérieure proposée par Jésus n'est pas une paix intermittente. Ou d'un seul coup, voilà, pour certains trucs, on a encore le droit de s'énerver, on a encore le droit de souffrir. Enfin, vous avez le droit, finalement, mais vous souffrez. Non, Jésus nous propose une paix perpétuelle, une paix continuelle. À nous de la prendre. À nous de la prendre. Voulez-vous être exceptionnel? C'est le deuxième point. Voulez-vous être exceptionnel? Jésus ne nous a pas sauvés pour que rien ne change. Et pour que nous vivions comme tout le monde. Jésus nous a sauvés pour que nous fassions tâche. En Occident, au XXIe siècle, beaucoup de gens non chrétiens sont aussi gentils que les chrétiens. Il n'y a pas de différence fondamentale dans un pays comme le nôtre. Tout le monde consomme et tout le monde est gentil, bénéficie de la bonne éducation de l'école républicaine. Mais allez tendre l'autre joue quand on vous frappe sur la première. Allez à contre-courant de vos réflexes primitifs face à quelqu'un qui vous persécute. Et la différence sera faite avec la plupart de vos contemporains. Si vous voulez faire la différence, obéissez à Jésus sur ce point-là. Souvent, nous nous contentons d'être neutres face à des difficultés. Nous nous contentons de ne pas broncher. Ce qui est déjà une bonne chose de ne pas broncher et d'être neutre et d'essayer de rester zen, n'est-ce pas? Un peu comme des bouddhistes, sauf que nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous sommes des disciples de Jésus et Jésus nous demande beaucoup plus que d'être neutre. Il nous demande d'aller à l'inverse de ce qui nous est fait. Voulez-vous être exceptionnel? Et enfin, le troisième point, c'est le combat intérieur. Au lieu de choisir entre des cas extrêmes, comme la carpette ou l'homme ultra musclé, Jésus nous ordonne de combattre le mal. La vie d'enfant de Dieu est un match, une révolte, une mission top secrète contre le mal en nous-mêmes. Nous aurions très envie d'éradiquer le mal chez les autres. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'éradiquer le mal chez les autres. Sauf que Jésus nous demande d'éradiquer le mal en nous-mêmes. Nous avons tendance à croire que l'essentiel, finalement, dans notre vie, c'est d'être efficace, d'être productif, d'être carré, d'être des gens dignes de confiance, des gens fiables. Nous pensons que ce qui est essentiel, c'est que nos objectifs soient tous remplis. Et c'est vrai que c'est essentiel d'être fiable. Mais il y a quelque chose d'encore plus primordial, que nous progressions dans notre match intérieur contre le mal. Il est tout à fait possible de réussir sa vie publique tout en ratant sa vie privée. Il est possible de réussir sa vie externe en ratant sa vie interne. Et le danger que nous courons, c'est de croire que notre vie publique compense notre vie privée. On peut se dire, d'accord, j'ai très très mal parlé à machin, bidule, si vous voulez, mais au moins, la réunion a avancé et on a été plus efficace, par exemple. D'accord, j'ai mal parlé, j'ai manqué de respect, mais au moins on a un petit peu avancé, parce qu'il fallait quand même qu'on avance dans cette réunion. C'est-à-dire se donner ce genre d'excuses. Ou, oui, je ne me soucie jamais des autres, mais j'occupe telle fonction qui fait avancer la société. Ou bien, je suis profondément égoïste, mais quand je parle de Jésus, il y a plein de conversions. Ma vie publique compense ma vie privée. Jésus ne veut pas de ça. Jésus veut que nous gagnions le match intérieur. Si Dieu veut que nous soyons parfaits comme lui, alors c'est à vie que nous devons lutter dans tous les compartiments de notre vie. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous recevons de l'aide de la part de son esprit. Il suffit de lui laisser la main, il suffit de le laisser faire pour que nos réactions, pour que nos pensées soient transformées. Alors bien sûr, il y aura des défaites, il y aura aussi des victoires, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un match. Car quand il n'y a pas de match, on ressemble un petit peu à l'équipe de France face au Pays de Galles. On se prend une raclée. Il faut qu'il y ait un match. Amen. Je vous invite.